We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Kachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Kachava, you're getting 85-plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code FITNESS for 15% off your next order. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code FITNESS for 15% off.
Section 16 de l'Allemagne par Madame Germaine de Staël. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 15. Weimar. De toutes les principautés de l'Allemagne, il n'en est point qui fasse mieux sentir que Weimar les avantages d'un petit pays, quand son chef est un homme de beaucoup d'esprit, et qu'au milieu de ses sujets, il peut chercher à plaire sans cesser d'être obéi. C'est une société particulière qu'un tel État, et l'on y tient tous les uns aux autres par des rapports intimes. La duchesse Louise de Saxe-Weimar est le véritable modèle d'une femme destinée par la nature au rang le plus illustre. Sans prétention, comme sans faiblesse, elle inspire au même degré la confiance et le respect. Et l'héroïsme des temps chevaleresques est entré dans son âme sans lui rien ôter de la douceur de son sexe. Les talents militaires du duc sont universellement estimés, et sa conversation piquante et réfléchie rappelle sans cesse qu'il a été formé par le grand Frédéric. C'est son esprit et celui de sa mère qui ont attiré les hommes de lettres les plus distingués à Weimar. L'Allemagne, pour la première fois, eut une capitale littéraire. Mais comme cette capitale était en même temps une très petite ville, elle n'avait d'ascendant que par ses lumières. Car la mode, qui amène toujours l'uniformité dans tout, ne pouvait partir d'un cercle aussi étroit. Herder venait de mourir quand je suis arrivé à Weimar. Mais Wieland, Goethe et Schiller y étaient encore. Je peindrai chacun de ces hommes séparément dans la section suivante. Je les peindrai surtout par leurs ouvrages, car leurs livres ressemblent parfaitement à leur caractère et à leur entretien. Cet accord très rare est une preuve de sincérité. Quand on a pour premier but, en écrivant, de faire effet sur les autres, on ne se montre jamais à eux tel qu'on est réellement. Mais quand on écrit pour satisfaire à l'inspiration intérieure, dont l'âme est saisie, on fait connaître par ses écrits, même sans le vouloir, jusqu'aux moindres nuances de sa manière d'être et de penser. Le séjour des petites villes m'a toujours paru très ennuyeux. L'esprit des hommes s'y rétrécit, le cœur des femmes s'y glace. On y vit tellement en présence les uns des autres qu'on est oppressé par ses semblables. Ce n'est plus cette opinion à distance qui vous anime et retentit de loin comme le bruit de la gloire. C'est un examen minutieux de toutes les actions de votre vie, une observation de chaque détail, qui rend incapable de comprendre l'ensemble de votre caractère. Et plus on a d'indépendance et d'élévation, moins on peut respirer à travers tous ces petits barreaux. Cette pénible gêne n'existait point à Weimar. Ce n'était point une petite ville, mais un grand château. Un cercle choisi s'entretenait avec intérêt de chaque production nouvelle des arts. Des femmes, disciples aimables de quelques hommes supérieurs, s'occupaient sans cesse des ouvrages littéraires, comme des événements publics les plus importants. On appelait l'univers à soi par la lecture et l'étude. On échappait par l'étendue de la pensée aux bornes des circonstances. En réfléchissant souvent ensemble sur les grandes questions que fait naître la destinée commune à tous, on oubliait les anecdotes particulières de chacun. on ne rencontrait aucun de ces merveilleux de province qui prennent si facilement le dédain pour de la grâce et l'affectation pour de l'élégance. Dans la même principauté, à côté de la première réunion littéraire de l'Allemagne, se trouvait Iéna, l'un des foyers de science les plus remarquables. Un espace bien resserré rassemblait ainsi d'étonnantes lumières en tout genre. L'imagination, constamment excitée à Weimar par l'entretien des poètes, éprouvait moins le besoin des distractions extérieures. Ces distractions soulagent du fardeau de l'existence, mais elles en dissipent souvent les forces. On menait dans cette campagne, appelée ville, une vie régulière, occupée et sérieuse. On pouvait s'en fatiguer quelquefois, mais on n'y dégradait pas son esprit par des intérêts futiles et vulgaires. Et si l'on manquait de plaisir, on ne sentait pas du moins déchoir ses facultés. Le seul luxe du prince, c'est un jardin ravissant, et on lui sait gré de cette jouissance populaire qu'il partage avec tous les habitants de la ville. Le théâtre, dont je parlerai dans la seconde partie de cet ouvrage, est dirigé par le plus grand poète de l'Allemagne, Goethe, et ce spectacle intéresse assez tout le monde pour préserver de ces assemblées qui mettent en évidence les ennuis cachés. On appelait Weimar l'Athènes de l'Allemagne, et c'était en effet le seul lieu dans lequel l'intérêt des beaux-arts fut pour ainsi dire national et servit de lien fraternel entre les rangs divers. Une cour libérale recherchait habituellement la société des hommes de lettres, et la littérature gagnait singulièrement à l'influence du bon goût qui régnait dans cette cour. L'on pouvait juger, par ce petit cercle, du bon effet que produirait en Allemagne un tel mélange, s'il était généralement adopté.
Fin de la section 16.
Section 17 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 16. La Prusse. Il faut étudier le caractère de Frédéric II quand on veut connaître la Prusse. Un homme a créé cet empire que la nature n'avait point favorisé et qui n'est devenu une puissance que parce qu'un guerrier en a été le maître. Il y a deux hommes très distincts dans Frédéric II, un Allemand par la nature et un Français par l'éducation. Tout ce que l'Allemand a fait dans un royaume allemand y a laissé des traces durables. Tout ce que le Français a tenté n'a point germé d'une manière féconde. Frédéric II était formé par la philosophie française du XVIIIe siècle. Cette philosophie fait du mal aux nations lorsqu'elle tarit en elles la source de l'enthousiasme. Mais quand il existe telle chose qu'un monarque absolu, il est à souhaiter que des principes libéraux tempèrent en lui l'action du despotisme. Frédéric introduisit la liberté de penser dans le nord de l'Allemagne. La réformation y avait amené l'examen, mais non pas la tolérance. Et par un contraste singulier, on ne permettait d'examiner qu'en prescrivant impérieusement d'avance le résultat de cet examen. Frédéric mit en honneur la liberté de parler et d'écrire, soit par ses plaisanteries piquantes et spirituelles qui ont tant de pouvoir sur les hommes quand elles viennent d'un roi, soit par son exemple, plus puissant encore, car il ne punit jamais ceux qui disaient ou imprimaient du mal de lui, et il montra dans presque toutes ses actions la philosophie dont il professait les principes. Il établit dans l'administration un ordre et une économie qui a fait la force intérieure de la Prusse, malgré tous ses désavantages naturels. Il n'est point de roi qui se soit montré aussi simple que lui dans sa vie privée, et même dans sa cour. Il se croyait chargé de ménager autant qu'il était possible l'argent de ses sujets. Il avait en toute chose un sentiment de justice que les malheurs de sa jeunesse et la dureté de son père avaient gravé dans son cœur.
Ce sentiment est peut-être le plus rare de tous dans les conquérants, car ils aiment mieux être généreux que justes. Parce que la justice suppose un rapport quelconque d'égalité avec les autres. Frédéric avait rendu les tribunaux si indépendants que, pendant sa vie et sous le règne de ses successeurs, on les a vus souvent décider en faveur des sujets contre le roi dans des procès qui tenaient à des intérêts politiques. Il est vrai qu'il serait presque impossible en Allemagne d'introduire l'injustice dans les tribunaux. Les Allemands sont assez disposés à se faire des systèmes pour abandonner la politique à l'arbitraire. Mais quand il s'agit de jurisprudence ou d'administration, on ne peut faire entrer dans leur tête d'autres principes que ceux de la justice. Leur esprit de méthode, même sans parler de la droiture de leur cœur, réclame l'équité comme mettant de l'ordre dans tout. Néanmoins, il faut louer Frédéric de sa probité dans le gouvernement intérieur de son pays. C'est un de ses premiers titres à l'admiration de la postérité. Frédéric n'était point sensible, mais il avait de la bonté. Les qualités universelles sont celles qui conviennent le mieux au souverain. Néanmoins, cette bonté de Frédéric était inquiétante comme celle du lion, et l'on sentait la griffe du pouvoir même au milieu de la grâce et de la coquetterie de l'esprit le plus aimable. Les hommes d'un caractère indépendant ont eu de la peine à se soumettre à la liberté que ce maître croyait donner, à la familiarité qu'il croyait permettre. Et, tout en l'admirant, ils sentaient qu'ils respiraient mieux loin de lui. Le grand malheur de Frédéric fut de n'avoir point assez de respect pour la religion ni pour les mœurs. Ses goûts étaient cyniques. Bien que l'amour de la gloire ait donné de l'élévation à ses pensées, sa manière licencieuse de s'exprimer sur les objets les plus sacrés était cause que ses vertus mêmes n'inspiraient pas de confiance. On en jouissait, on les approuvait, mais on les croyait un calcul. Tout semblait devoir être de la politique dans Frédéric. Ainsi donc, ce qu'il faisait de bien rendait l'état du pays meilleur, mais ne perfectionnait pas la moralité de la nation. Il affichait l'incrédulité et se moquait de la vertu des femmes, et rien ne s'accordait moins avec le caractère allemand que cette manière de penser. Frédéric, en affranchissant ses sujets de ce qu'il appelait les préjugés, éteignait en eux le patriotisme, car, pour s'attacher aux pays naturellement sombres et stériles, il faut qu'il y règne des opinions et des principes d'une grande sévérité. Dans ces contrées sablonneuses, où la terre ne produit que des sapins et des bruyères, la force de l'homme consiste dans son âme. Et si vous lui ôtez ce qui fait la vie de cette âme, les sentiments religieux, il n'aura plus que du dégoût pour sa triste patrie. Le penchant de Frédéric pour la guerre peut être excusé par de grands motifs politiques. Son royaume, tel qu'il le reçut de son père, ne pouvait subsister. Et c'est presque pour le conserver qu'il l'agrandit. Il avait 2,5 millions de sujets en arrivant au trône. Il en laissa 6 à sa mort. Le besoin qu'il avait de l'armée l'empêcha d'encourager dans la nation un esprit public dont l'énergie et l'unité fussent imposantes. Le gouvernement de Frédéric était fondé sur la force militaire et la justice civile. Il les conciliait l'une et l'autre par sa sagesse, mais il était difficile de mêler ensemble deux esprits d'une nature si opposée. Frédéric voulait que ses soldats fussent des machines militaires, aveuglément soumises, et que ses sujets fussent des citoyens éclairés capables de patriotisme. Il n'établit point dans les villes de Prusse des autorités secondaires, des municipalités telles qu'il en existait dans le reste de l'Allemagne, de peur que l'action immédiate du service militaire ne pût être arrêtée par elle. Et cependant, il souhaitait qu'il y eût assez d'esprit de liberté dans son empire pour que l'obéissance y parût volontaire. Il voulait que l'état militaire fût le premier de tous, puisque c'était celui qui lui était le plus nécessaire. mais il aurait désiré que l'état civil se maintînt indépendant à côté de la force. Frédéric, enfin, voulait rencontrer partout des appuis, mais nulle part des obstacles. L'amalgame merveilleux de toutes les classes de la société ne s'obtient guère que par l'empire de la loi, la même pour tous. Un homme peut faire marcher ensemble des éléments opposés, mais à sa mort, ils se séparent. L'ascendant de Frédéric, entretenu par la sagesse de ses successeurs, s'est manifesté quelque temps encore. Cependant, on sentait toujours en Prusse les deux nations qui en composaient mal une seule, l'armée et l'état civil. Les préjugés nobiliaires subsistaient à côté des principes libéraux les plus prononcés. Enfin, l'image de la Prusse offrait un double aspect, comme celle de Janus, l'un militaire et l'autre philosophe. Un des plus grands torts de Frédéric fut de se prêter au partage de la Pologne. La Silésie avait été acquise par les armes. La Pologne fut une conquête machiavélique, et l'on ne pouvait jamais espérer que des sujets, ainsi dérobés, fussent fidèles à l'escamoteur qui se disait leur souverain. D'ailleurs, les Allemands et les esclavons ne sauraient s'unir entre eux par des liens indissolubles. Et quand une nation admet dans son sein, pour sujet, des étrangers ennemis, elle se fait presque autant de mal que quand elle les reçoit pour maîtres. Car il n'y a plus dans le corps politique cet ensemble qui personnifie l'État et constitue le patriotisme. Ces observations sur la Prusse portent toutes sur les moyens qu'elle avait de se maintenir et de se défendre, car rien dans le gouvernement intérieur n'y nuisait à l'indépendance et à la sécurité. C'était l'un des pays de l'Europe où l'on honorait le plus les Lumières, où la liberté de fait, si ce n'est de droit, était le plus scrupuleusement respectée. Je n'ai pas rencontré dans toute la Prusse un seul individu qui se plaignît d'actes arbitraires dans le gouvernement. Et cependant, il n'y aurait pas eu le moindre danger à s'en plaindre. Mais quand dans un état social, le bonheur lui-même n'est pour ainsi dire qu'un accident heureux, et qu'il n'est pas fondé sur des institutions durables qui garantissent à l'espèce humaine sa force et sa dignité, le patriotisme a peu de persévérance, et l'on abandonne facilement au hasard les avantages qu'on croit ne devoir qu'à lui. Frédéric II, l'un des plus beaux dons de ce hasard, qui semblait veiller sur la Prusse, avait su se faire aimer sincèrement dans son pays. Et depuis qu'il n'est plus, on le chérit autant que pendant sa vie. Le sort de la Prusse n'a que trop appris ce que c'est que l'influence même d'un grand homme, alors que durant son règne, il ne travaille point généreusement à se rendre utile. La nation tout entière s'en reposait sur son roi de son principe d'existence, et semblait devoir finir avec lui. Frédéric II aurait voulu que la littérature française fût la seule de ses états. Il ne faisait aucun cas de la littérature allemande. Sans doute, elle n'était pas de son temps à beaucoup près aussi remarquable qu'à présent. Mais il faut qu'un prince allemand encourage tout ce qui est allemand. Frédéric avait le projet de rendre Berlin un peu semblable à Paris, et se flattait de trouver dans les réfugiés français quelques écrivains assez distingués pour avoir une littérature française. Une telle espérance devait nécessairement être trompée. Les cultures factices ne prospèrent jamais. Quelques individus peuvent lutter contre les difficultés que présentent les choses, mais les grandes masses suivent toujours la pente naturelle. Frédéric a fait un mal véritable à son pays en professant du mépris pour le génie des Allemands. Il en est résulté que le corps germanique a souvent conçu d'injustes soupçons contre la Prusse. Plusieurs écrivains allemands, justement célèbres, se firent connaître vers la fin du règne de Frédéric. Mais l'opinion défavorable que ce grand monarque avait conçue dans sa jeunesse contre la littérature de son pays ne s'effaça point, et il composa peu d'années avant sa mort un petit écrit dans lequel il propose, entre autres changements, d'ajouter une voyelle à la fin de chaque verbe pour adoucir la langue tudesque. Cet allemand masqué en italien produirait le plus comique effet du monde. Mais nul monarque, même en Orient, n'aurait assez de puissance pour influer ainsi, non sur le sens, mais sur le son de chaque mot qui se prononcerait dans son empire. Klopstock a noblement reproché à Frédéric de négliger les muses allemandes qui, à son insu, s'essayaient à proclamer sa gloire. Frédéric n'a pas du tout deviné ce que sont les Allemands en littérature et en philosophie. Il ne les croyait pas inventeurs. Il voulait discipliner les hommes de lettres comme ses armées. Il faut, écrivait-il en mauvais allemand, dans ses instructions à l'Académie, se conformer à la méthode de Boerhaave dans la médecine, à celle de Locke dans la métaphysique et à celle de Thomasius pour l'histoire universelle. Ces conseils n'ont pas été suivis. Il ne se doutait guère que de tous les hommes, les Allemands étaient ceux qu'on pouvait le moins assujettir à la routine littéraire et philosophique. Rien n'annonçait en eux l'audace qu'ils ont montrée depuis dans le champ de l'abstraction. Frédéric considérait ses sujets comme des étrangers et les hommes d'esprit français comme ses compatriotes. Rien n'était plus naturel, il faut en convenir, que de se laisser séduire par tout ce qu'il y avait de brillant et de solide dans les écrivains français à cette époque. Néanmoins, Frédéric aurait contribué plus efficacement encore à la gloire de son pays s'il avait compris et développé les facultés particulières à la nation qu'il gouvernait. Mais comment résister à l'influence de son temps ? Et quel est l'homme dont le génie même n'est pas à beaucoup d'égards l'ouvrage de son siècle ?
Fin de la section 17. Section 18 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 17. Berlin. Berlin est une grande ville, dont les rues sont très larges, parfaitement bien alignées, les maisons belles et l'ensemble régulier. Mais comme il n'y a pas longtemps qu'elle est rebâtie, on n'y voit rien qui retrace les temps antérieurs. Aucun monument gothique ne subsiste au milieu des habitations modernes. Et ce pays, nouvellement formé, n'est gêné par l'ancien en aucun genre. Que peut-il y avoir de mieux, dira-t-on, soit pour les édifices, soit pour les institutions, que de n'être pas embarrassé par des ruines ? Je sens que j'aimerais en Amérique les nouvelles villes et les nouvelles lois. La nature et la liberté y parlent assez à l'âme pour qu'on n'y ait pas besoin de souvenirs. Mais sur notre vieille terre, il faut du passé. Berlin, cette ville toute moderne, quelque belle qu'elle soit, ne fait pas une impression assez sérieuse. On n'y aperçoit point l'empreinte de l'histoire du pays, ni du caractère des habitants, et ces magnifiques demeures nouvellement construites ne semblent destinées qu'au rassemblement commode des plaisirs et de l'industrie. Les plus beaux palais de Berlin sont bâtis en briques. On trouverait à peine une pierre de taille dans les arcs de triomphe. La capitale de la Prusse ressemble à la Prusse elle-même. Les édifices et les institutions y ont âge d'homme et rien de plus, parce qu'un homme seul en est l'auteur. La cour, présidée par une reine belle et vertueuse, était imposante et simple tout à la fois. La famille royale, qui se répandait volontiers dans la société, savait se mêler noblement à la nation et s'identifiait dans tous les cœurs avec la patrie. Le roi avait su fixer à Berlin de Müller, Ancillon, Fichte, Humboldt, Ufeland, une foule d'hommes distingués dans des genres différents. Enfin, tous les éléments d'une société charmante et d'une nation forte étaient là. Mais ces éléments n'étaient point encore combinés ni réunis. L'esprit réussissait cependant de façon plus générale à Berlin qu'à Vienne. Le héros du pays, Frédéric, ayant été un homme prodigieusement spirituel, le reflet de son nom faisait encore aimer tout ce qui pouvait lui ressembler. Marie-Thérèse n'a point donné une impulsion semblable aux Viennois, et ce qui dans Joseph ressemblait à de l'esprit les en a dégoûtés. Aucun spectacle en Allemagne n'égalait celui de Berlin. Cette ville étant au centre du nord de l'Allemagne, peut être considéré comme le foyer de ces lumières. On y cultive les sciences et les lettres, et dans les dîners d'hommes, chez les ministres et ailleurs, on ne s'astreint point à la distinction de rang si nuisible à l'Allemagne. Et l'on sait rassembler les gens de talent de toutes les classes. Cet heureux mélange ne s'étend pas encore néanmoins jusqu'à la société des femmes. Il en est quelques-unes dont les qualités et les agréments attirent autour d'elles tout ce qui se distingue. Mais en général, à Berlin comme dans le reste de l'Allemagne, la société des femmes n'est pas bien amalgamée avec celle des hommes. Le grand charme de la vie sociale en France consiste dans l'art de concilier parfaitement ensemble les avantages que l'esprit des femmes et celui des hommes réunis peuvent apporter dans la conversation. À Berlin, les hommes ne causent guère qu'entre eux. L'état militaire leur donne une certaine rudesse qui leur inspire le besoin de ne pas se gêner pour les femmes. Quand il y a, comme en Angleterre, de grands intérêts politiques à discuter, les sociétés d'hommes sont toujours animées par un noble intérêt commun. Mais dans les pays où il n'y a pas de gouvernement représentatif, la présence des femmes est nécessaire pour maintenir tous les sentiments de délicatesse et de pureté, sans lesquels l'amour du beau doit se perdre. L'influence des femmes est plus salutaire aux guerriers qu'aux citoyens. Le règne de la loi se passe mieux d'elles que celui de l'honneur, car ce sont elles seules qui conservent l'esprit chevaleresque dans une monarchie purement militaire. L'ancienne France a dû tout son éclat à cette puissance de l'opinion publique, dont l'ascendant des femmes était la cause. Il n'y avait qu'un très petit nombre d'hommes dans la société à Berlin, ce qui gâte presque toujours ceux qui s'y trouvent en leur ôtant l'inquiétude et le besoin de plaire. Les officiers, qui obtenaient un congé pour venir passer quelques mois à la ville, n'y cherchaient que la danse ou le jeu. Le mélange des deux langues nuisait à la conversation, et les grandes assemblées n'offraient pas plus d'intérêt à Berlin qu'à Vienne. On doit trouver même, dans tout ce qui tient aux manières, plus d'usages du monde à Vienne qu'à Berlin. Néanmoins, la liberté de la presse, la réunion des hommes d'esprit, la connaissance de la littérature et de la langue allemande, qui s'était généralement répandue dans les derniers temps, faisait de Berlin la vraie capitale de l'Allemagne nouvelle, de l'Allemagne éclairée. Les réfugiés français affaiblissait un peu l'impulsion tout allemande dont Berlin est susceptible. Il conservait encore un respect superstitieux pour le siècle de Louis XIV. Leurs idées sur la littérature se flétrissaient et se pétrifiaient à distance du pays d'où elles étaient tirées. Mais en général, Berlin aurait pris un grand ascendant sur l'esprit public en Allemagne, si l'on n'avait pas conservé, je le répète, du ressentiment contre le dédain que Frédéric avait montré pour la nation germanique. Les écrivains philosophes ont eu souvent d'injustes préjugés contre la Prusse. Ils ne voyaient en elle qu'une vaste caserne, et c'était sous ce rapport qu'elle valait le moins. Ce qui doit intéresser à ce pays, ce sont les lumières, l'esprit de justice et les sentiments d'indépendance qu'on rencontre dans une foule d'individus de toutes les classes. Mais le lien de ces belles qualités n'était pas encore formé. L'État nouvellement constitué ne reposait ni sur le temps ni sur le peuple. Les punitions humiliantes généralement admises parmi les troupes allemandes froissaient l'honneur dans l'âme des soldats. Les habitudes militaires ont plutôt nui que servi à l'esprit guerrier des Prussiens. Ces habitudes étaient fondées sur de vieilles méthodes qui séparaient l'armée de la nation. Tandis que de nos jours, il n'y a de véritable force que dans le caractère national. Ce caractère en Prusse est plus noble et plus exalté que les derniers événements ne pourraient le faire croire. Et l'ardent héroïsme du malheureux prince Louis doit jeter encore quelque gloire sur ses compagnons d'armes.
Fin de la section 18. Section 19
de l'Allemagne par Madame Germaine de Stael.
Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 18. Des universités allemandes. Tout le nord de l'Allemagne est rempli d'universités les plus savantes de l'Europe. Dans aucun pays, pas même en Angleterre, il n'y a autant de moyens de s'instruire et de perfectionner ses facultés. À quoi tient donc que la nation manque d'énergie et qu'elle paraisse en général lourde et bornée, quoiqu'elle renferme un petit nombre d'hommes peut-être les plus spirituels de l'Europe? C'est à la nature des gouvernements, et non à l'éducation, qu'il faut attribuer ce singulier contraste. L'éducation intellectuelle est parfaite en Allemagne, mais tout s'y passe en théorie. L'éducation pratique dépend uniquement des affaires. C'est par l'action seule que le caractère acquiert la fermeté nécessaire pour se guider dans la conduite de la vie. Le caractère est un instinct, il tient de plus près à la nature que l'esprit, et néanmoins les circonstances donnent seules aux hommes l'occasion de le développer. Les gouvernements sont les vrais instituteurs des peuples, et l'éducation publique elle-même, quelque bonne qu'elle soit, peut former des hommes de lettres, mais non des citoyens, des guerriers, ni des hommes d'État. En Allemagne, le génie philosophique va plus loin que partout ailleurs. Rien ne l'arrête, et l'absence même de carrière politique, si funeste à la masse, donne encore plus de liberté aux penseurs. Mais une distance immense sépare les esprits du premier et du second ordre. Parce qu'il n'y a point d'intérêt, ni d'objet d'activité, pour les hommes qui ne s'élèvent pas à la hauteur des conceptions les plus vastes. Celui qui ne s'occupe pas de l'univers en Allemagne n'a vraiment rien à faire. Les universités allemandes ont une ancienne réputation qui date de plusieurs siècles avant la Réformation. Depuis cette époque, les universités protestantes sont incontestablement supérieures aux universités catholiques. Et toute la gloire littéraire de l'Allemagne tient à ces institutions. Note. On peut en voir une esquisse dans l'ouvrage que M. de Villers vient de publier sur ce sujet. On trouve toujours M. de Villers à la tête de toutes les opinions nobles et généreuses. Il semble appelé, par la grâce de son esprit et la profondeur de ses études, à représenter la France en Allemagne et l'Allemagne en France. Fin de note. Les universités anglaises ont singulièrement contribué à répandre parmi les Anglais cette connaissance des langues et de la littérature ancienne, qui donne aux orateurs et aux hommes d'État en Angleterre une instruction si libérale et si brillante. Il est de bon goût de savoir autre chose que les affaires, quand on les sait bien. Et d'ailleurs, l'éloquence des nations libres se rattache à l'histoire des Grecs et des Romains, comme à celle d'anciens compatriotes. Mais les universités allemandes, quoique fondées sur des principes analogues à celles d'Édimbourg, en diffèrent à beaucoup d'égards. La foule des étudiants qui se réunissaient à Göttingen, Halle, Iéna, etc., formait presque un corps libre dans l'État. Les écoliers riches et pauvres ne se distinguaient entre eux que par leurs mérites personnels. Et les étrangers, qui venaient de tous les coins du monde, se soumettaient avec plaisir à cette égalité que la supériorité naturelle pouvait seule altérer. Il y avait de l'indépendance et même de l'esprit militaire parmi les étudiants. Et si, en sortant de l'université, ils avaient pu se vouer aux intérêts publics, leur éducation eût été très favorable à l'énergie du caractère. Mais ils rentraient dans les habitudes monotones et casanières qui dominent en Allemagne, et perdaient par degrés l'élan et la résolution que la vie de l'université leur avait inspirée. Il ne leur en restait que l'instruction la plus forte et la plus étendue. Dans chaque université allemande, plusieurs professeurs étaient en concurrence pour chaque branche d'enseignement. Ainsi, les maîtres avaient eux-mêmes de l'émulation, intéressés qu'ils étaient à l'emporter les uns sur les autres, en attirant un plus grand nombre d'écoliers. Ceux qui se destinaient à telle ou telle carrière en particulier, la médecine, le droit, etc., se trouvaient naturellement appelés à s'instruire sur d'autres sujets. Et de là vient l'universalité de connaissances que l'on remarque dans presque tous les hommes instruits de l'Allemagne. Les universités possédaient des biens en propre, comme le clergé. Elles avaient une juridiction à elles. Et c'est une belle idée de nos pères que d'avoir, sous tous les rapports, affranchi l'enseignement. L'âge mûr peut se soumettre aux circonstances. Mais à l'entrée de la vie, au moins, le jeune homme doit puiser ses idées dans une source non altérée. L'étude des langues, qui fait la base de l'instruction en Allemagne, est beaucoup plus favorable au progrès des facultés dans l'enfance que celle des mathématiques ou des sciences physiques. Pascal, ce grand géomètre, dont la pensée profonde planait sur la science dont il s'occupait spécialement, comme sur toutes les autres, a reconnu lui-même les défauts inséparables des esprits formés d'abord par les mathématiques. Cette étude, dans le premier âge, n'exerce que le mécanisme de l'intelligence. Les enfants, que l'on occupe de si bonne heure à calculer, perdent toute cette sève de l'imagination, alors si belle et si féconde, et n'acquièrent point à la place une justesse d'esprit transcendante. Car l'arithmétique et l'algèbre se bornent à nous apprendre, de mille manières, des propositions toujours identiques. Les problèmes de la vie sont plus compliqués. Aucun n'est positif, aucun n'est absolu. Il faut deviner, il faut choisir, à l'aide d'aperçus et de suppositions, qui n'ont aucun rapport avec la marche infaillible du calcul. Les vérités démontrées ne conduisent point aux vérités probables, les seules qui servent de guide dans les affaires, comme dans les arts, comme dans la société. Il y a sans doute un point où les mathématiques elles-mêmes exigent cette puissance lumineuse de l'invention, sans laquelle on ne peut pénétrer dans les secrets de la nature. Au sommet de la pensée, l'imagination d'Homère et celle de Newton semblent se réunir. Mais combien d'enfants sans génie pour les mathématiques ne consacrent-ils pas tout leur temps à cette science ? On n'exerce chez eux qu'une seule faculté, tandis qu'il faut développer tout l'être moral dans une époque où l'on peut si facilement déranger l'âme comme le corps en ne fortifiant qu'une partie. Rien n'est moins applicable à la vie qu'un raisonnement mathématique. Une proposition en fait de chiffres est décidément fausse ou vraie. Sous tous les autres rapports, le vrai se mêle avec le faux d'une telle manière que souvent le sentiment peut seul nous décider entre les motifs divers, quelquefois aussi puissants d'un côté que de l'autre. L'étude des mathématiques, habituant à la certitude, irrite contre toutes les opinions opposées à la nôtre. Tandis que ce qu'il y a de plus important pour la conduite de ce monde, c'est d'apprendre les autres, c'est-à-dire de concevoir tout ce qui les porte à penser et à sentir autrement que nous. Les mathématiques induisent à ne tenir compte que de ce qui est prouvé, tandis que les vérités primitives, celles que le sentiment et le génie saisissent, ne sont pas susceptibles de démonstration. Enfin, les mathématiques, soumettant tout au calcul, inspire trop de respect pour la force. Et cette énergie sublime, qui ne compte pour rien les obstacles et se plaît dans les sacrifices, s'accorde difficilement avec le genre de raison que développent les combinaisons algébriques. Il me semble donc que, pour l'avantage de la morale, aussi bien que pour celui de l'esprit, il vaut mieux placer l'étude des mathématiques dans son temps, et comme une portion de l'instruction totale, mais non en faire la base de l'éducation, et par conséquent le principe déterminant du caractère et de l'âme. Parmi les systèmes d'éducation, il en est aussi qui conseillent de commencer l'enseignement par les sciences naturelles. Elles ne sont dans l'enfance qu'un simple divertissement. Ce sont des hochets savants qui accoutument à s'amuser avec méthode
et à étudier superficiellement. On s'est imaginé qu'il fallait, autant qu'on le pouvait, éviter de la peine aux enfants, changer en délassement toutes leurs études, leur donner de bonne heure des collections d'histoire naturelle pour jouets, des expériences de physique pour spectacle. Il me semble que cela aussi est un système erroné. S'il était possible qu'un enfant apprît bien quelque chose en s'amusant, je regretterais encore pour lui le développement d'une faculté, l'attention. Faculté qui est beaucoup plus essentielle qu'une connaissance de plus. Je sais qu'on me dira que les mathématiques rendent particulièrement appliquées, mais elles n'habituent pas à rassembler, apprécier, concentrer. L'attention qu'elles exigent est, pour ainsi dire, en ligne droite. L'esprit humain agit en mathématiques comme un ressort qui suit une direction toujours la même. L'éducation faite en s'amusant disperse la pensée. La peine en tout genre est un des grands secrets de la nature. L'esprit de l'enfant doit s'accoutumer aux efforts de l'étude, comme notre âme à la souffrance. Le perfectionnement du premier âge tient au travail, comme le perfectionnement du second à la douleur. Il est à souhaiter sans doute que les parents et la destinée n'abusent pas trop de ce double secret. Mais il n'y a d'important à toutes les époques de la vie que ce qui agit sur le centre même de l'existence, et l'on considère trop souvent l'être moral en détail. Vous enseignerez, avec des tableaux, avec des cartes, une quantité de choses à votre enfant, mais vous ne lui apprendrez pas à apprendre. Et l'habitude de s'amuser, que vous dirigez sur les sciences, suivra bientôt un autre cours quand l'enfant ne sera plus dans votre dépendance. Ce n'est donc pas sans raison que l'étude des langues anciennes et modernes a été la base de tous les établissements d'éducation qui ont formé les hommes les plus capables en Europe. Le sens d'une phrase dans une langue étrangère est à la fois un problème grammatical et intellectuel. Ce problème est tout à fait proportionné à l'intelligence de l'enfant. D'abord, il n'entend que les mots, puis il s'élève jusqu'à la conception de la phrase. Et bientôt après, le charme de l'expression, sa force, son harmonie, tout ce qui se trouve enfin dans le langage de l'homme, se fait sentir par degrés à l'enfant qui traduit. Il s'essaie tout seul avec les difficultés que lui présentent deux langues à la fois. Il s'introduit dans les idées successivement, compare et combine divers genres d'analogies et de vraisemblances. Et l'activité spontanée de l'esprit, la seule qui développe vraiment la faculté de penser, est vivement excitée par cette étude. Le nombre des facultés qu'elle fait mouvoir à la fois lui donne l'avantage sur tout autre travail, et l'on est trop heureux d'employer la mémoire flexible de l'enfant à retenir un genre de connaissance sans lequel il serait borné toute sa vie au cercle de sa propre nation, cercle étroit comme tout ce qui est exclusif. L'étude de la grammaire exige la même suite et la même force d'attention que les mathématiques, mais elle tient de beaucoup plus près à la pensée. La grammaire lie les idées l'une à l'autre, comme le calcul enchaîne les chiffres. La logique grammaticale est aussi précise que celle de l'algèbre, et cependant, elle s'applique à tout ce qu'il y a de vivant dans notre esprit. Les mots sont en même temps des chiffres et des images. Ils sont esclaves et libres, soumis à la discipline de la syntaxe et tout-puissants par leur signification naturelle. Ainsi l'on trouve dans la logique de la grammaire la précision du calcul et la finesse de la métaphysique. Tout a passé par les mots et tout s'y retrouve quand on sait les examiner. Les langues sont inépuisables pour l'enfant comme pour l'homme, et chacun en peut tirer tout ce dont il a besoin. L'impartialité naturelle à l'esprit des Allemands les porte à s'occuper des littératures étrangères. Et l'on ne trouve guère d'hommes, un peu au-dessus de la classe commune en Allemagne, à qui la lecture de plusieurs langues ne soit familière. En sortant des écoles, on sait déjà d'ordinaire très bien le latin et même le grec. L'éducation des universités allemandes, dit un écrivain français, commence ou finit celle de plusieurs nations de l'Europe. Non seulement les professeurs sont des hommes d'une instruction étonnante, mais ce qui les distingue surtout, c'est un enseignement très scrupuleux. En Allemagne, on met de la conscience dans tout, et rien en effet ne peut s'en passer. Si l'on examine le cours de la destinée humaine, on verra que la légèreté peut conduire à tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde. Il n'y a que l'enfance dans qui la légèreté soit un charme. Il semble que le Créateur tienne encore l'enfant par la main et l'aide à marcher doucement sur les nuages de la vie. Mais quand le temps livre l'homme à lui-même, ce n'est que dans le sérieux de son âme qu'il trouve des pensées, des sentiments et des vertus.
Fin de la section 19. Section 20 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 19. Des institutions particulières d'éducation et de bienfaisance. Il paraîtra d'abord inconséquent de louer l'ancienne méthode qui faisait de l'étude des langues la base de l'éducation et de considérer l'école de Pestalozzi comme l'une des meilleures institutions de notre siècle. Je crois cependant que ces deux manières de voir peuvent se concilier. De toutes les études, celles qui donnent chez Pestalozzi les résultats les plus brillants, ce sont les mathématiques. Mais il me paraît que sa méthode pourrait s'appliquer à plusieurs autres parties de l'instruction et qu'elle y ferait faire des progrès sûrs et rapides. Rousseau a senti que les enfants, avant l'âge de 12 à 13 ans, n'avaient point l'intelligence nécessaire pour ce genre d'études, ou plutôt pour la méthode d'enseignement à laquelle on les soumettait. Ils répétaient sans comprendre, ils travaillaient sans s'instruire, et ne recueillaient souvent de l'éducation que l'habitude de faire leurs tâches sans la concevoir, et d'esquiver le pouvoir du maître par la ruse de l'écolier. Tout ce que Rousseau a dit contre cette éducation routinière est parfaitement vrai. Mais, comme il arrive souvent, ce qu'il propose comme remède est encore plus mauvais que le mal. Un enfant qui, d'après le système de Rousseau, n'aurait rien appris jusqu'à l'âge de 12 ans, aurait perdu 6 années précieuses de sa vie. Ses organes intellectuels n'acquerraient jamais la flexibilité que l'exercice dès la première enfance pouvait seul leur donner. Les habitudes d'oisiveté seraient tellement enracinées en lui qu'on le rendrait bien plus malheureux en lui parlant de travail pour la première fois à l'âge de 12 ans, qu'en l'accoutumant, depuis qu'il existe, à le regarder comme une condition nécessaire de la vie. D'ailleurs, l'espèce de soin que Rousseau exige de l'instituteur pour suppléer à l'instruction et pour la faire arriver par la nécessité exigerait que chaque homme consacrât sa vie entière à l'éducation d'un autre, et les grands-pères seuls se trouveraient libres de commencer une carrière personnelle. Note. Ce sujet est parfaitement bien traité dans l'ouvrage de M. Prosper de Barante sur la littérature du XVIIIe siècle. L'un des écrits les plus profonds et les plus spirituels qui est paru depuis longtemps en France. Fin de note. De tels projets sont chimériques, tandis que la méthode de Pestalozzi est réelle, applicable, et peut avoir une grande influence sur la marche future de l'esprit humain. Rousseau dit avec raison que les enfants ne comprennent pas ce qu'ils apprennent, et il en conclut qu'ils ne doivent rien apprendre. Pestalozzi a profondément étudié ce qui fait que les enfants ne comprennent pas, et sa méthode simplifie et gradue les idées de telle manière qu'elles sont mises à la portée de l'enfance, et que l'esprit de cet âge arrive sans se fatiguer aux résultats les plus profonds. En passant avec exactitude par tous les degrés du raisonnement, Pestalozzi met l'enfant en état de découvrir lui-même ce qu'on veut lui enseigner. il n'y a point d'à peu près dans la méthode de Pestalozzi. On entend bien ou l'on n'entend pas, car toutes les propositions se touchent de si près que le second raisonnement est toujours la conséquence immédiate du premier. Rousseau a dit que l'on fatiguait la tête des enfants par les études que l'on exigeait d'eux. Pestalozzi les conduit toujours par une route si facile et si positive qu'il ne leur en coûte pas plus de s'initier dans les sciences les plus abstraites que dans les occupations les plus simples. Chaque pas dans ces sciences est aussi aisé par rapport à l'antécédent que la conséquence la plus naturelle tirée des circonstances les plus ordinaires. Ce qui lasse les enfants, c'est de leur faire sauter les intermédiaires, de les faire avancer sans qu'ils sachent ce qu'ils croient avoir appris. Il y a dans leur tête alors une sorte de confusion qui leur rend tout examen redoutable et leur inspire un invincible dégoût pour le travail. Il n'existe pas trace de ces inconvénients chez Pestalozzi. Les enfants s'amusent de leurs études, non pas qu'on leur en fasse un jeu, ce qui, comme je l'ai déjà dit, met l'ennui dans le plaisir et la frivolité dans l'étude, mais parce qu'ils goûtent dès l'enfance le plaisir des hommes faits, savoir, comprendre et terminer ce dont ils sont chargés. La méthode de Pestalozzi, comme tout ce qui est vraiment bon, n'est pas une découverte entièrement nouvelle, mais une application éclairée et persévérante de vérités déjà connues. La patience, l'observation et l'étude philosophique des procédés de l'esprit humain lui ont fait connaître ce qu'il y a d'élémentaire dans les pensées et de successif dans leur développement. Et il a poussé plus loin qu'un autre la théorie et la pratique de la gradation dans l'enseignement. On a appliqué avec succès sa méthode à la grammaire, à la géographie, à la musique. Mais il serait fort à désirer que les professeurs distingués qui ont adopté ces principes les fissent servir à tous les genres de connaissances. Celle de l'histoire en particulier n'est pas encore bien conçue. On n'a point observé la gradation des impressions dans la littérature comme celle des problèmes dans les sciences. Enfin, il reste beaucoup de choses à faire pour porter au plus haut point l'éducation, c'est-à-dire l'art de se placer en arrière de ce qu'on sait pour le faire comprendre aux autres. Pestalozzi se sert de la géométrie pour apprendre aux enfants le calcul arithmétique. C'était aussi la méthode des anciens. La géométrie parle plus à l'imagination que les mathématiques abstraites. C'est bien fait de réunir, autant qu'il est possible, la précision de l'enseignement à la vivacité des impressions, si l'on veut se rendre maître de l'esprit humain tout entier. Car ce n'est pas la profondeur même de la science, mais l'obscurité dans la manière de la présenter, qui seule peut empêcher les enfants de la saisir. Ils comprennent tout de degrés en degrés. L'essentiel est de mesurer les progrès sur la marche de la raison dans l'enfance. Cette marche lente, mais sûre, conduit aussi loin qu'il est possible, dès qu'on s'astreint à ne la jamais hâter. C'est chez Pestalozzi un spectacle attachant et singulier que ces visages d'enfants dont les traits arrondis, vagues et délicats, prennent naturellement une expression réfléchie. Ils sont attentifs par eux-mêmes et considèrent leurs études comme un homme d'un âge mûr s'occuperait de ses propres affaires. Une chose remarquable, c'est que la punition ni la récompense ne sont point nécessaires pour les exciter dans leurs travaux. C'est peut-être la première fois qu'une école de 150 enfants va sans le ressort de l'émulation et de la crainte. Combien de mauvais sentiments sont épargnés à l'homme quand on éloigne de son cœur la jalousie et l'humiliation, quand il ne voit point dans ses camarades des rivaux, ni dans ses maîtres des juges. Rousseau voulait soumettre l'enfant à la loi de la destinée. Pestalozzi crée lui-même cette destinée pendant le cours de l'éducation de l'enfant et dirige ses décrets pour son bonheur et son perfectionnement. L'enfant se sent libre parce qu'il se plaît dans l'ordre général qui l'entoure, et dont l'égalité parfaite n'est point dérangée même par les talents plus ou moins distingués de quelques-uns. Il ne s'agit pas là de succès, mais de progrès, vers un but auquel tous tendent avec une même bonne foi. Les écoliers deviennent maîtres quand ils en savent plus que leurs camarades. Les maîtres redeviennent écoliers quand ils trouvent quelques imperfections dans leur méthode et recommencent leur propre éducation pour mieux juger des difficultés de l'enseignement. On craint assez généralement que la méthode de Pestalozzi n'étouffe l'imagination et ne s'oppose à l'originalité de l'esprit. Il est difficile qu'il y ait une éducation pour le génie, et ce n'est guère que la nature et le gouvernement qui l'inspirent ou l'excitent. Mais ce ne peut être un obstacle au génie que des connaissances primitives parfaitement claires et sûres. Elles donnent à l'esprit un genre de fermeté qui lui rend ensuite facile toutes les études les plus hautes. Il faut considérer l'école de Pestalozzi comme bornée jusqu'à présent à l'enfance. L'éducation qu'elle donne n'est définitive que pour les gens du peuple. Mais c'est par cela même qu'elle peut exercer une influence très salutaire sur l'esprit national. L'éducation pour les hommes riches doit être partagée en deux époques. Dans la première, les enfants sont guidés par leur maître. Dans la seconde, ils s'instruisent volontairement. Et cette éducation de choix, c'est dans les grandes universités qu'il faut la recevoir. L'instruction qu'on acquiert chez Pestalozzi donne à chaque homme, de quelque classe qu'il soit, une base sur laquelle il peut bâtir à son gré la chaumière du pauvre ou les palais des rois. On aurait tort si l'on croyait en France qu'il n'y ait rien de bon à prendre dans l'école de Pestalozzi que sa méthode rapide pour apprendre à calculer. Pestalozzi lui-même n'est pas mathématicien. Il sait mal les langues. Il n'a que le génie et l'instinct du développement intérieur de l'intelligence des enfants. Il voit quel chemin leur pensée suit pour arriver au but. Cette loyauté de caractère qui répand un si noble calme sur les affections du cœur, Pestalozzi l'a jugée nécessaire aussi dans les opérations de l'esprit. Il pense qu'il y a un plaisir de moralité dans des études complètes. En effet, nous voyons sans cesse que les connaissances superficielles inspirent une sorte d'arrogance dédaigneuse qui fait repousser comme inutile ou dangereux ou ridicule tout ce qu'on ne sait pas. Nous voyons aussi que ces connaissances superficielles obligent à cacher habilement ce qu'on ignore. La candeur souffre de tous ces défauts d'instruction dont on ne peut s'empêcher d'être honteux. Savoir parfaitement ce qu'on sait donne un repos à l'esprit qui ressemble à la satisfaction de la conscience. La bonne foi de Pestalozzi, cette bonne foi portée dans la sphère de l'intelligence et qui traite avec les idées aussi scrupuleusement qu'avec les hommes, est le principal mérite de son école. C'est par là qu'il rassemble autour de lui des hommes consacrés au bien-être des enfants, d'une façon tout à fait désintéressée. Quand dans un établissement public, aucun des calculs personnels des chefs n'est satisfait, il faut chercher le mobile de cet établissement dans leur amour de la vertu. Les jouissances qu'elle donne peuvent seules se passer de trésors et de pouvoirs. On n'imiterait point l'Institut de Pestalozzi en transportant ailleurs sa méthode d'enseignement. Il faut établir avec elle la persévérance dans les maîtres, la simplicité dans les écoliers, la régularité dans le genre de vie, enfin, surtout, les sentiments religieux qui animent cette école. Les pratiques du culte n'y sont pas suivies avec plus d'exactitude qu'ailleurs, mais tout s'y passe au nom de la divinité, au nom de ce sentiment élevé, noble et pur, qui est la religion habituelle du cœur. La vérité, la bonté, la confiance, l'affection entourent les enfants. C'est dans cette atmosphère qu'ils vivent, et pour quelque temps du moins, ils restent étrangers à toutes les passions haineuses, à tous les préjugés orgueilleux du monde. Un éloquent philosophe, Fichte, a dit qu'il attendait la régénération de la nation allemande de l'Institut de Pestalozzi. Il faut convenir au moins qu'une révolution fondée sur de pareils moyens ne serait ni violente ni rapide, car l'éducation, quelque bonne qu'elle puisse être, n'est rien en comparaison de l'influence des événements publics. L'instruction perce goutte à goutte le rocher, mais le torrent l'enlève en un jour. Il faut rendre surtout hommage à Pestalozzi pour le soin qu'il a pris de mettre son institut à la portée des personnes sans fortune, en réduisant le prix de sa pension autant qu'il était possible. Il s'est constamment occupé de la classe des pauvres et veut lui assurer le bienfait des lumières pures et de l'instruction solide. Les ouvrages de Pestalozzi sont sous ce rapport une lecture très curieuse. Il a fait des romans dans lesquels les situations de la vie des gens du peuple sont peintes avec un intérêt, une vérité et une moralité parfaites. Les sentiments qu'il exprime dans ses écrits sont, pour ainsi dire, aussi élémentaires que les principes de sa méthode. On est étonné de pleurer pour un mot, pour un détail si simple, si vulgaire même, que la profondeur seule des émotions le relève. Les gens du peuple sont un état intermédiaire entre les sauvages et les hommes civilisés. Quand ils sont vertueux, ils ont un genre d'innocence et de bonté qui ne peut se rencontrer dans le monde. La société pèse sur eux, ils luttent avec la nature, et leur confiance en Dieu est plus animée, plus constante que celle des riches. Sans cesse menacés par le malheur, recourant sans cesse à la prière, inquiets chaque jour, sauvés chaque soir, les pauvres se sentent sous la main immédiate de celui qui protège ce que les hommes ont délaissé. Et leur probité, quand ils en ont, est singulièrement scrupuleuse. Je me rappelle, dans un roman de Pestalozzi, la restitution de quelques pommes de terre par un enfant qui les avait volées. Sa grand-mère mourante lui ordonne de les reporter au propriétaire du jardin où il les a prises, et cette scène attendrit jusqu'au fond du cœur. Ce pauvre crime, si l'on peut s'exprimer ainsi, causant de tels remords, la solennité de la mort à travers les misères de la vie. La vieillesse et l'enfance rapprochées par la voix de Dieu, qui parle également à l'une et à l'autre, tout cela fait mal, car dans nos fictions poétiques, les pompes de la destinée soulagent un peu de la pitié que causent les revers. Mais l'on croit voir dans ces romans populaires une faible lampe éclairer une petite cabane, et la bonté de l'âme ressort au milieu de toutes les douleurs qui la mettent à l'épreuve. L'art du dessin, pouvant être considéré sous des rapports d'utilité, l'on peut dire que, parmi les arts d'agrément, le seul introduit dans l'école de Pestalozzi, c'est la musique. Il faut le louer encore de ce choix. Il y a tout un ordre de sentiments, je dirais même tout un ordre de vertus, qui appartiennent à la connaissance, ou du moins au goût de la musique. Et c'est une grande barbarie que de priver de telles impressions une portion nombreuse de la race humaine. Les anciens prétendaient que les nations avaient été civilisées par la musique, et cette allégorie a un sens très profond. Car il faut toujours supposer que le lien de la société s'est formé par la sympathie ou par l'intérêt, et certes, la première origine est plus noble que l'autre. Pestalozzi n'est pas le seul dans la Suisse allemande qui s'occupe avec zèle de cultiver l'âme du peuple. C'est sous ce rapport que l'établissement de M. de Fellenberg m'a frappé. Beaucoup de gens y sont venus chercher de nouvelles lumières sur l'agriculture, et l'on dit qu'à cet égard, ils ont été satisfaits. Mais ce qui mérite principalement l'estime des amis de l'humanité, c'est le soin que prend M. de Fellenberg de l'éducation des gens du peuple. Il fait instruire, selon la méthode de Pestalozzi, les maîtres d'école des villages, afin qu'ils enseignent à leur tour les enfants. Les ouvriers qui labourent ces terres apprennent la musique des psaumes, et bientôt on entendra dans la campagne les louanges divines chantées avec des voix simples mais harmonieuses, qui célébreront à la fois la nature et son auteur. Enfin, M. de Fellenberg cherche par tous les moyens possibles à former entre la classe inférieure et la nôtre un lien libéral, un lien qui ne soit pas uniquement fondé sur les intérêts pécuniaires des riches et des pauvres. L'exemple de l'Angleterre et de l'Amérique nous apprend qu'il suffit des institutions libres pour développer l'intelligence et la sagesse du peuple. Mais c'est un pas de plus que lui donner par-delà le nécessaire en fait d'instruction. Le nécessaire, en tout genre, a quelque chose de révoltant quand ce sont les possesseurs du superflu qui le mesurent. Ce n'est pas assez de s'occuper des gens du peuple sous un point de vue d'utilité. Il faut aussi qu'ils participent aux jouissances de l'imagination et du cœur. C'est dans le même esprit que le baron de Vogt, l'un des philanthropes les plus éclairés de l'Allemagne, s'est occupé de la mendicité. Il n'a mis, dans ses établissements de charité à Hambourg, ni despotisme, ni spéculation économique. Il a voulu que les hommes malheureux souhaitassent eux-mêmes le travail qu'on leur demande, autant que les bienfaits qu'on leur accorde. Comme il ne faisait point des pauvres un moyen, mais un but, il ne leur a pas ordonné l'occupation, il leur a fait désirer. Sans cesse, on voit, dans les différents comptes qu'il a rendus des établissements de charité, qu'il lui importe bien plus de rendre les hommes meilleurs que de les rendre plus utiles. Et c'est ce haut point de vue philosophique qui caractérise l'esprit supérieur et l'âme élevée dont il est doué. Il y a beaucoup de bienfaisance dans le monde, et celui qui n'est pas capable de servir ses semblables par le sacrifice de son temps et de ses penchants, leur fait volontiers du bien avec de l'argent. C'est toujours quelque chose, et nulle vertu n'est à dédaigner. Mais la masse considérable des aumônes particulières n'est point sagement dirigée dans la plupart des pays. Et l'un des services les plus éminents que le baron de Vogt et ses excellents compatriotes aient rendus à l'humanité, c'est de montrer que sans nouveaux sacrifices, sans que l'État intervînt, la bienfaisance particulière suffisait au soulagement du malheur. Ce qui s'opère par les individus convient singulièrement à l'Allemagne, où chaque chose, prise séparément, vaut mieux que l'ensemble. Les entreprises charitables doivent prospérer dans la ville de Hambourg. Il y a tant de moralité parmi ses habitants que pendant longtemps on y a payé les impôts dans une espèce de tronc, sans que jamais personne surveillât ce qu'on y portait. Ces impôts devaient être proportionnés à la fortune de chacun, et calcul fait, ils ont toujours été scrupuleusement acquittés. Ne croit-on pas raconter un trait de l'âge d'or, si toutefois dans l'âge d'or il y avait des richesses privées et des impôts publics? On ne saurait assez admirer combien, sous le rapport de l'enseignement, comme sous celui de l'administration, la bonne foi rend tout facile. On devrait bien lui accorder tous les honneurs qu'obtient l'habileté, car en résultat, elle s'entend mieux même aux affaires de ce monde.
Fin de la section 20. Section 21. De l'Allemagne par Madame Germaine de Staël. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 20. La fête d'Interlaken. Il faut attribuer au caractère germanique une grande partie des vertus de la Suisse allemande. Néanmoins, il y a plus d'esprit public en Suisse qu'en Allemagne, plus de patriotisme, plus d'énergie, plus d'accord dans les opinions et les sentiments. Mais aussi, la petitesse des États et la pauvreté du pays n'y excitent en aucune manière le génie. On y trouve bien moins de savants et de penseurs que dans le nord de l'Allemagne, où le relâchement même des liens politiques donne l'essor à toutes les nobles rêveries, à tous les systèmes hardis qui ne sont point soumis à la nature des choses. Ce n'est pas une nation poétique que les Suisses, et l'on s'étonne avec raison que l'admirable aspect de leur contrée n'aient pas enflammé davantage leur imagination. Toutefois, un peuple religieux et libre est toujours susceptible d'un genre d'enthousiasme, et les occupations matérielles de la vie ne sauraient l'étouffer entièrement. Si l'on avait pu en douter, on s'en serait convaincu par la fête des bergers, qui a été célébrée l'année dernière au milieu des lacs, en mémoire du fondateur de Berne. Cette ville de Berne mérite plus que jamais le respect et l'intérêt des voyageurs. Il semble que depuis ses derniers malheurs, elle ait repris toutes ses vertus avec une ardeur nouvelle, et qu'en perdant ses trésors, elle ait redoublé de largesse envers les infortunés. Ces établissements de charité sont peut-être les mieux soignés de l'Europe. L'hôpital est l'édifice le plus beau, le seul magnifique de la ville. Sur la porte est écrite cette inscription, « Christo in pauperibus », au Christ dans les pauvres. Il n'en est point de plus admirable. La religion chrétienne ne nous a-t-elle pas dit que c'était pour ceux qui souffrent que le Christ était descendu sur la terre? Et qui de nous, dans quelque époque de sa vie, n'est pas un de ces pauvres en bonheur, en espérance, un de ces infortunés enfin, qu'on doit soulager au nom de Dieu? Tout dans la ville et le canton de Berne porte l'empreinte d'un ordre sérieux et calme, d'un gouvernement digne et paternel. Un air de probité se fait sentir dans chaque objet que l'on aperçoit. On se croit en famille au milieu de 200 000 hommes, que l'on appelle nobles, bourgeois ou paysans, mais qui sont tous également dévoués à la patrie. Pour aller à la fête, il fallait s'embarquer sur l'un de ces lacs dans lesquels les beautés de la nature se réfléchissent, et qui semblent placés au pied des Alpes pour en multiplier les ravissants aspects. Un temps orageux nous dérobait la vue distincte des montagnes, mais, confondue avec les nuages, elle n'en était que plus redoutable. La tempête grossissait, et bien qu'un sentiment de terreur s'emparât de mon âme, j'aimais cette foudre du ciel qui confond l'orgueil de l'homme. Nous nous reposâmes un moment dans une espèce de grotte, avant de nous hasarder à traverser la partie du lac de Thun, qui est entourée de rochers inabordables. C'est dans un lieu pareil que Guillaume Tell sut braver les abîmes et s'attacher à des écueils pour échapper à ses tyrans. Nous aperçûmes alors, dans le lointain, cette montagne qui porte le nom de Vierge, Jungfrau, parce qu'aucun voyageur n'a jamais pu gravir jusqu'à son sommet. Elle est moins haute que le Mont Blanc, et cependant elle aspire plus de respect, parce qu'on la sait inaccessible. Nous arrivâmes à Untersen, et le bruit de l'Aar, qui tombe en cascade autour de cette petite ville, disposait l'âme à des impressions rêveuses. Les étrangers, en grand nombre, étaient logés dans des maisons de paysans fort propres, mais rustiques. Il était assez piquant de voir se promener dans la rue d'Untersen de jeunes Parisiens tout à coup transportés dans les vallées de la Suisse. Ils n'entendaient plus que le bruit des torrents, ils ne voyaient plus que des montagnes, et cherchaient si dans ces lieux solitaires ils pourraient s'ennuyer assez pour retourner avec plus de plaisir encore dans le monde. On a beaucoup parlé d'un air joué par les cors des Alpes, et dont les Suisses recevaient une impression si vive qu'ils quittaient leur régiment quand ils l'entendaient, pour retourner dans leur patrie. On conçoit l'effet que peut produire cet air quand l'écho des montagnes le répète, mais il est fait pour retentir dans l'éloignement. De près, il ne cause pas une sensation très agréable. S'il était chanté par des voix italiennes, l'imagination en serait tout à fait enivrée, mais peut-être que ce plaisir ferait naître des idées étrangères à la simplicité du pays. On y souhaiterait les arts, la poésie, l'amour, tandis qu'il faut pouvoir s'y contenter du repos et de la vie champêtre. Le soir qui précéda la fête, on alluma des feux sur les montagnes. C'est ainsi que jadis les libérateurs de la Suisse donnèrent le signal de leur sainte conspiration. Ces feux placés sur les sommets ressemblaient à la lune lorsqu'elle se lève derrière les montagnes, et qu'elle se montre à la fois ardente et paisible. On eût dit que des astres nouveaux venaient assister au plus touchant spectacle que notre monde puisse encore offrir. L'un de ces signaux enflammés semblait placé dans le ciel, éclairait les ruines du château d'Unspennen, autrefois possédé par Berthold, le fondateur de Berne, en mémoire de qui se donnait la fête. Des ténèbres profondes environnaient ce point lumineux. Et les montagnes, qui pendant la nuit ressemblent à de grands fantômes, apparaissaient comme l'ombre gigantesque du mort qu'on voulait célébrer. Le jour de la fête, le temps était doux, mais nébuleux. Il fallait que la nature répondît à l'attendrissement de tous les cœurs. L'enceinte choisie pour les jeux est entourée de collines parsemées d'arbres, et des montagnes à perte de vue sont derrière ces collines. Tous les spectateurs, au nombre de près de 6 000, s'assirent sur les hauteurs en pente, et les couleurs variées des habillements ressemblaient dans l'éloignement à des fleurs répandues sur la prairie. Jamais un aspect plus riant ne put annoncer une fête. Mais quand les regards s'élevaient, des rochers suspendus semblaient, comme la destinée, menacer les humains au milieu de leurs plaisirs. Cependant, s'il est une joie de l'âme assez pure pour ne pas provoquer le sort, c'était celle-là. Lorsque la foule des spectateurs fut réunie, on entendit venir de loin la procession de la fête. Procession solennelle, en effet, puisqu'elle était consacrée au culte du passé. Une musique agréable l'accompagnait. Les magistrats paraissaient à la tête des paysans. Les jeunes paysannes étaient vêtues selon le costume ancien et pittoresque de chaque canton. Les hallebardes et les bannières de chaque vallée étaient portées en avant de la marche par des hommes à cheveux blancs, habillés précisément comme on l'était il y a 5 siècles, lors de la conjuration de Rutli. Une émotion profonde s'emparait de l'âme en voyant ces drapeaux si pacifiques qui avaient pour gardiens des vieillards. Le vieux temps était représenté par ces hommes âgés pour nous, mais si jeunes en présence des siècles. Je ne sais quel air de confiance dans tous ces êtres faibles touchait profondément, parce que cette confiance ne leur était inspirée que par la loyauté de leur âme. Les yeux se remplissaient de larmes au milieu de la fête, comme dans ces jours heureux et mélancoliques où l'on célèbre la convalescence de ce qu'on aime. Enfin les jeux commencèrent, et les hommes de la vallée et les hommes de la montagne montrèrent, en soulevant d'énormes poids, en luttant les uns contre les autres, une agilité et une force de corps très remarquables. Cette force rendait autrefois les nations plus militaires. Aujourd'hui que la tactique et l'artillerie disposent du sort des armées, on ne voit dans ces exercices que des jeux agricoles. La terre est mieux cultivée par des hommes aussi robustes, mais la guerre ne se fait qu'à l'aide de la discipline et du nombre, et les mouvements mêmes de l'âme ont moins d'empire sur la destinée humaine depuis que les individus ont disparu dans les masses, et que le genre humain semble dirigé comme la nature inanimée par des lois mécaniques. Après que les jeux furent terminés et que le bon bailli du lieu eut distribué les prix aux vainqueurs, on dîna sous des tentes et l'on chanta des vers sur le bonheur présent de la Suisse et sur la reconnaissance qu'elle devait à la médiation qui le lui a conservé. On faisait passer à la ronde, pendant le repas, des coupes en bois, sur lesquelles étaient sculptés Guillaume Tell et les 3 fondateurs de la liberté helvétique. On buvait avec transport au repos, à l'ordre, à l'indépendance, et le patriotisme du bonheur s'exprimait avec une cordialité qui pénétrait toutes les âmes. Les prairies sont aussi fleuries que jadis, les montagnes aussi verdoyantes. Quand toute la nature sourit, le cœur seul de l'homme pourrait-il n'être qu'un désert ? Note. Ces paroles étaient le refrain d'un chant plein de grâce et de talent, composé pour cette fête. L'auteur de ce chant est Madame Harmès, très connue par ses écrits sous le nom de Madame de Berlepsch en Allemagne. Fin de note. Non, sans doute, il ne l'était pas. Il s'épanouissait avec confiance au milieu de cette belle contrée. en présence de ces hommes respectables, animés tous par les sentiments les plus purs. Un pays pauvre, d'une étendue très bornée, sans luxe, sans éclat, sans puissance, et chéri par ses habitants comme un ami qui cache ses vertus dans l'ombre et les consacre toutes au bonheur de ceux qui l'aiment. Depuis 5 siècles que dure la prospérité de la Suisse, on compte plutôt de sages générations que de grands hommes. Il n'y a point de place pour l'exception quand l'ensemble est aussi heureux. On dirait que les ancêtres de cette nation règnent encore au milieu d'elle. Toujours elle les respecte, les imite et les recommence. La simplicité des mœurs et l'attachement aux anciennes coutumes, la sagesse et l'uniformité dans la manière de vivre, rapprochent de nous le passé et nous rendent l'avenir présent. Une histoire, toujours la même, ne semble qu'un seul moment, dont la durée est de plusieurs siècles. La vie coule dans ces vallées comme les rivières qui les traversent. Ce sont des ondes nouvelles, mais qui suivent le même cours. Puisse-t-il n'être point interrompu ? Puisse la même fête être souvent célébrée au pied de ces mêmes montagnes ? L'étranger les admire comme une merveille. L'Helvétien les chérit comme un asile où les magistrats et les pères soignent ensemble les citoyens et les enfants.
Fin de la section 21. Section 22.
De l'Allemagne par Madame Germaine de Staël. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Seconde partie. De la littérature et des arts. Chapitre 1er. Pourquoi les Français ne rendent-ils pas justice à la littérature allemande ? Je pourrais répondre d'une manière fort simple à cette question en disant que très peu de personnes, en France, savent l'allemand, et que les beautés de cette langue, surtout en poésie, ne peuvent être traduites en français. Les langues teutoniques se traduisent facilement entre elles. Il en est de même des langues latines, mais celles-ci ne sauraient rendre la poésie des peuples germaniques. Une musique composée pour un instrument n'est point exécutée avec succès sur un instrument d'un autre genre. D'ailleurs, la littérature allemande n'existe guère dans toute son originalité qu'à dater de 40 à 50 ans. Et les Français, depuis 20 années, sont tellement préoccupés par les événements politiques que toutes leurs études en littérature ont été suspendues. Ce serait toutefois traiter bien superficiellement la question que de s'en tenir à dire que les Français sont injustes envers la littérature allemande, parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils ont, il est vrai, des préjugés contre elle, mais ces préjugés tiennent au sentiment confus des différences prononcées qui existent entre la manière de voir et de sentir des deux nations. En Allemagne, il n'y a de goût fixe sur rien. Tout est indépendant, tout est individuel. L'on juge d'un ouvrage par l'impression qu'on en reçoit, et jamais par les règles, puisqu'il n'y en a point de généralement admises. Chaque auteur est libre de se créer une sphère nouvelle. En France, la plupart des lecteurs ne veulent jamais être émus, ni même s'amuser aux dépens de leur conscience littéraire. Leur scrupule s'est réfugié là. Un auteur allemand forme son public. En France, le public commande aux auteurs. Comme on trouve en France un beaucoup plus grand nombre de gens d'esprit qu'en Allemagne, le public y est beaucoup plus imposant, tandis que les écrivains allemands, éminemment élevés au-dessus de leurs juges, les gouvernent au lieu d'en recevoir la loi. De là vient que ces écrivains ne se perfectionnent guère par la critique. L'impatience des lecteurs ou celle des spectateurs ne les oblige point à retrancher les longueurs de leurs ouvrages. Et rarement, il s'arrête à temps parce qu'un auteur, ne se lassant presque jamais de ses propres conceptions, ne peut être averti que par les autres du moment où elles cessent d'intéresser. Les Français pensent et vivent dans les autres, au moins sous le rapport de l'amour-propre. Et l'on sent dans la plupart de leurs ouvrages que leur principal but n'est pas l'objet qu'ils traitent, mais l'effet qu'ils produisent. Les écrivains français sont toujours en société, alors même qu'ils composent, car ils ne perdent pas de vue les jugements, les moqueries et le goût à la mode, c'est-à-dire l'autorité littéraire sous laquelle on vit à telle ou telle époque. La première condition pour écrire, c'est une manière de sentir vive et forte. Les personnes qui étudient dans les autres ce qu'elles doivent éprouver et ce qui leur est permis de dire, littérairement parlant, n'existent pas. Sans doute nos écrivains de génie, et quelle nation en possède plus que la France, ne se sont asservis qu'aux liens qui ne nuisaient pas à leur originalité. Mais il faut comparer les deux pays en masse, et dans le temps actuel, pour connaître à quoi tient leur difficulté de s'entendre. En France, on ne lit guère un ouvrage que pour en parler. En Allemagne, où l'on vit presque seul, on veut que l'ouvrage même tienne compagnie. Et quelle société de l'âme peut-on faire avec un livre qui ne serait lui-même que l'écho de la société? Dans le silence de la retraite, rien ne semble plus triste que l'esprit du monde. L'homme solitaire a besoin qu'une émotion intime lui tienne lieu du mouvement extérieur qui lui manque. La clarté passe en France pour l'un des premiers mérites d'un écrivain, car il s'agit avant tout de ne pas se donner de la peine et d'attraper en lisant le matin ce qui fait briller le soir en causant. Mais les Allemands savent que la clarté ne peut jamais être qu'un mérite relatif. Un livre est clair selon le sujet et selon le lecteur. Montesquieu ne peut être compris aussi facilement que Voltaire, et néanmoins il est aussi lucide que l'objet de ses méditations le permet. Sans doute il faut porter la lumière dans la profondeur, mais ceux qui s'en tiennent aux grâces de l'esprit et au jeu des paroles sont bien plus sûrs d'être compris. Ils n'approchent d'aucun mystère, comment donc serait-il obscur? Les Allemands, par un défaut opposé, se plaisent dans les ténèbres. Souvent, ils remettent dans la nuit ce qui était au jour, plutôt que de suivre la route battue. Ils ont un tel dégoût pour les idées communes que, lorsqu'ils se trouvent dans la nécessité de les retracer, ils les environnent d'une métaphysique abstraite, qui peut les faire croire nouvelles jusqu'à ce qu'on les ait reconnues. Les écrivains allemands ne se gênent point avec leurs lecteurs. Leurs ouvrages étant reçus et commentés comme des oracles, ils peuvent les entourer d'autant de nuages qu'il leur plaît. La patience ne manquera point pour écarter ces nuages. Mais il faut qu'à la fin on aperçoive une divinité, car ce que les Allemands tolèrent le moins, c'est l'attente trompée. Leurs efforts même et leur persévérance leur rendent les grands résultats nécessaires. Dès qu'il n'y a pas dans un livre des pensées fortes et nouvelles, il est bien vite dédaigné. Et si le talent fait tout pardonner, l'on n'apprécie guère les divers genres d'adresse par lesquels on peut essayer d'y suppléer. La prose des Allemands est souvent trop négligée. L'on attache beaucoup plus d'importance au style en France qu'en Allemagne. C'est une suite naturelle de l'intérêt qu'on met à la parole et du prix qu'elle doit avoir dans un pays où la société domine. Tous les hommes d'un peu d'esprit sont juges de la justesse et de la convenance de telle ou telle phrase, tandis qu'il faut beaucoup d'attention et d'étude pour saisir l'ensemble et l'enchaînement d'un ouvrage. D'ailleurs, les expressions prêtent bien plus à la plaisanterie que les pensées, et dans tout ce qui tient aux mots, l'on rit avant d'avoir réfléchi. Cependant, la beauté du style n'est point, il faut en convenir, un avantage purement extérieur, car les sentiments vrais inspirent presque toujours les expressions les plus nobles et les plus justes. Et s'il est permis d'être indulgent pour le style d'un écrit philosophique, on ne doit pas l'être pour celui d'une composition littéraire. Dans la sphère des beaux-arts, la forme appartient autant à l'âme que le sujet même. L'art dramatique offre un exemple frappant des facultés distinctes des deux peuples. Tout ce qui se rapporte à l'action, à l'intrigue, à l'intérêt des événements, est mille fois mieux combiné, mille fois mieux conçu chez les Français. Tout ce qui tient au développement des impressions du cœur, aux orages secrets des passions fortes est beaucoup plus approfondie chez les Allemands. Il faut, pour que les hommes supérieurs de l'un et de l'autre pays atteignent au plus haut point de perfection, que le français soit religieux, que l'allemand soit un peu mondain. La piété s'oppose à la dissipation d'âme qui est le défaut et la grâce de la nation française. La connaissance des hommes et de la société donnerait aux Allemands en littérature le goût et la dextérité qui leur manquent. Les écrivains des deux pays sont injustes les uns envers les autres. Les Français, cependant, se rendent plus coupables à cet égard que les Allemands. Ils jugent sans connaître, ou n'examinent qu'avec un parti pris. Les Allemands sont plus impartiaux. L'étendue des connaissances fait passer sous les yeux tant de manières de voir diverses qu'elle donne à l'esprit la tolérance qui naît de l'universalité. Les Français gagneraient plus néanmoins à concevoir le génie allemand que les Allemands à se soumettre au bon goût français. Toutes les fois que, de nos jours, on a pu faire entrer dans la régularité française un peu de sève étrangère, les Français y ont applaudi avec transport. Jean-Jacques Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, etc., dans quelques-uns de leurs ouvrages, sont tous, même à leur insu, de l'école germanique, c'est-à-dire qu'ils ne puisent leur talent que dans le fond de leur âme. Mais si l'on voulait discipliner les écrivains allemands d'après les lois prohibitives de la littérature française, ils ne sauraient comment naviguer au milieu des écueils qu'on leur aurait indiqués. Ils regretteraient la pleine mer et leur esprit serait plus troublé qu'éclairé. Il ne s'ensuit pas qu'ils doivent tout hasarder et qu'ils ne feraient pas bien de s'imposer quelquefois des bornes. Mais il leur importe de les placer d'après leur manière de voir. Il faut, pour leur faire adopter de certaines restrictions nécessaires, remonter au principe de ces restrictions, sans jamais employer l'autorité du ridicule contre laquelle ils sont tout à fait révoltés. Les hommes de génie de tous les pays sont faits pour se comprendre et pour s'estimer. Mais le vulgaire des écrivains et des lecteurs allemands et français rappelle cette fable de La Fontaine, où la cigogne ne peut manger dans le plat, ni le renard dans la bouteille. Le contraste le plus parfait se fait voir entre les esprits développés dans la solitude et ceux qui sont formés par la société. Les impressions du dehors et le recueillement de l'âme, la connaissance des hommes et l'étude des idées abstraites, l'action et la théorie donnent des résultats tout à fait opposés. La littérature, les arts, la philosophie, la religion des deux peuples attestent cette différence. Et l'éternelle barrière du Rhin sépare deux régions intellectuelles qui, non moins que les deux contrées, sont étrangères l'une à l'autre.
Fin de la section 22.